Vous êtes sur RTL.
On vous retrouve, Marc-Olivier Fogiel, pour RTL Soir.
Bonsoir Virginie, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour 2 heures d'infos. Et à la une, Emmanuel Macron, des mineurs, le président de la République, à la rencontre des Français en colère. Aujourd'hui, il a défendu ses choix en marge des commémorations du centenaire de la Grande Guerre à Verdun. Emmanuel Macron assume la fiscalité écologique, mais se défend. La hausse des carburants, c'est pas bibi. Il assure entendre le malaise qui monte et vouloir aider les Français en améliorant le chèque énergie et en défiscalisant les aides au transport. Alors dans RTL Soir, vous allez entendre le chef de l'État. On va vous expliquer pourquoi l'exécutif change de pied. À 18h20, on demandera au patron des députés Les Républicains, Christian Jacob, s'il a été convaincu. L'analyse d'Alain Duhamel, c'est pour 18h30. Le débat dans Refait le Monde, c'est pour 19h15. RTL Soir, première édition, avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Les autres titres de votre journal.
Le bilan s'alourdit et la polémique enfle à Marseille. On compte désormais 3 morts et 5 disparus après l'effondrement de 2 immeubles vétustes dans un quartier populaire. Plus de 40 000 logements présenteraient un risque dans la ville. Un coup de filet antiterroriste dans les milieux de l'ultra-droite. 6 suspects arrêtés, ils envisageaient une attaque contre Emmanuel Macron. À suivre également le lancement enfin du carnet de santé numérique. Ça fait 15 ans qu'on en parle. Les Américains aux urnes depuis midi pour les élections de mi-mandat, c'est pour ou contre Donald Trump. Le foot, ça passe ou ça casse pour le PSG à Naples en Ligue des Champions. Et puis, l'arme fatale contre les fraudeurs, l'Europe va tester un robot douanier qui repère les menteurs. La Bourse de Paris, elle termine en baisse de 0,51% à 5075 points. Les courses à Saint-Cloud, il fallait jouer le 2, le 7, le 4, le 12 et le 9.
À la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité, 85 millions d'euros, c'est la somme versée aux victimes du 13 novembre. Mais comment a-t-elle été déterminée? Qui touche quoi? 18h25, direction les coulisses de l'actualité. Cette nuit, 4 écrivains vont sans doute très mal dormir. Ce sont les finalistes du Goncourt remis demain. On vous amène en coulisses du plus prestigieux des prix littéraires. 18h35, les cartons rouges de l'arbitre tacleur. 10 mois après son geste polémique contre un joueur, Tony Chaperon s'explique et se lâche. Que s'est-il passé lors de ce Nantes PSG? S'est-il senti abandonné par ses collègues? Tony Chaperon dit tout à l'heure sur RTL. Bonsoir Patricia Charbonnier.
Bonsoir.
De la douceur pour demain, mais avec de la grisaille et de la pluie.
Et de la pluie qui arrive cette fois-ci par l'ouest du pays qui va progresser demain dans la journée vers l'est. Des pluies demain matin entre les Hauts-de-France, la Normandie, l'Île-de-France, le Centre-Val-de-Loire et la Nouvelle-Aquitaine. Des éclaircies dans l'est avant la dégradation pluvieuse. Et puis les températures toujours très douces. 5 à 13 degrés pour demain matin et 12 à 19 dans l'après-midi. 12 à Brest, 13 à Paris et Lille, 14 à Lyon, 17 à Biarritz, 19 à Ajaccio.
A tout à l'heure Patricia.
RTL Soir.
Sans attendre, direction Marseille où le bilan s'alourdit d'heure en heure, Isabelle.
Oui, un troisième corps a été retrouvé cet après-midi dans les décombres des 2 immeubles qui se sont effondrés hier en plein centre-ville. La polémique sur le logement indigne grandit. Étienne Baudu, vous êtes le correspondant d'RTL à Marseille. En plus des 3 morts, 5 personnes sont toujours portées disparues. Les recherches sont très compliquées car en fait, toute la zone est fragile.
Oui, car au-delà des 3 immeubles qui se sont effondrés, ce sont en tout 12 de bâtiments qui risquent aux alentours de s'écrouler à tout moment. Les mesures de sécurité sont drastiques. Écoutez le capitaine de frégate Samuel, le chef des opérations, alors que nous étions à proximité du site.
On a ici un immeuble qui présente une fragilité structurelle. Donc sur un simple coup bref de ma part, s'il y a le moindre risque, on évacuera rapidement de ce côté-là.
Et donc c'est tout le périmètre qui est sécurisé en plein centre-ville de Marseille, faut-il le rappeler.
On a en place au niveau des fenêtres du personnel qui est très vigilant pour pouvoir avertir le personnel qui est menacé par une éventuelle chute de structure.
Et ce personnel, ce sont les sauveteurs déblayeurs qui progressent lentement au cœur des gravats. Ils raclent à la pelle, voire à la main, les décombres à la recherche de poches de vie, aidés par les chiens spécialisés ou de petites caméras endoscopiques qui scrutent les entrailles. Alors des corps vont être extraits des décombres, 3 déjà, il en reste 5 et peut-être plus, si jamais des squatteurs avaient élu domicile dans l'immeuble pourtant muré qui s'est effondré, ce n'est pas à exclure. Enfin, dans le quartier et plus largement, les critiques fusent quant à la gestion par la ville de Marseille de ces logements insalubres. 40 000 sur l'ensemble de la ville.
À Marseille pour RTL, Étienne Baudu.
Et Christophe Castaner reconnaît que Marseille est particulièrement touchée par les marchands de sommeil. Plus de 44 000 logements sont concernés, précise le ministre de l'Intérieur. Il promet un audit de l'habitat indigne immeuble par immeuble.
Nous retournons évidemment à Marseille dans le journal de 19h. Il était venu commémorer la bataille de Verdun. Emmanuel Macron s'est retrouvé au front
dans la bataille du pouvoir d'achat.
Le président poursuit sa fameuse itinérance mémorielle sur la Grande Guerre. Ce matin, aux Éparges, il a annoncé l'entrée prochaine au Panthéon de l'écrivain Maurice Genevoix, blessé en 1915 dans cette bataille sanglante. Avec lui, on en aura également tous les poilus, ceux de 14, le titre de son livre témoignage sur ce conflit. Mais ensuite, le chef de l'État a été rattrapé par le présent. Hier en Moselle, il n'avait rencontré que des élus. Aujourd'hui, bain de foule à Verdun. Vincent Derosier, vous y étiez pour RTL. Ça a duré 3 quarts d'heure, car les Français avaient bien des chose à lui dire.
Oui, plus de 40 minutes pendant lesquelles le président a essuyé tous les reproches.
Vous sentez pas le malaise en France qui
monte ? Je sens le malaise.
Méfiez-vous quand ça monte, la colère monte.
La colère d'abord liée au prix des carburants.
Vous écrasez les gens tout de suite.
Non, on n'écrase personne.
Avec le carburant.
Je vais finir au carburant, mais le carburant, c'est pas Bibi.
Il y a quand même des taxes de l'État.
Non, mais c'est vrai, et je les assume.
Un président qui assume, comme pour la hausse de la CSG.
Les plus petites retraites, elles n'ont pas une augmentation.
Pourquoi vous faites souffrir les Français comme ça financièrement ?
Vous savez.
Et finalement, votre politique, elle est en train de nous détruire.
Non, je crois pas.
On subit vos réformes injustes. Est-ce que vous aimez tous les Français ? Non, je ne pense pas.
Moi, j'aime les Français.
Les retraites, mais aussi le prix du gaz, tout y passe.
Alors, le minimum vieillesse, on l'a augmenté là, on va le augmenter l'année prochaine. C'est les engagements que j'ai pris. 30 euros à chaque fois, par mois. Le gaz, c'est pas le gouvernement qui fixe.
30 euros en plus pour payer le gaz, ça fait pas beaucoup.
Et les jeunes aussi se font entendre.
Nous, en tant qu'étudiants, on a un peu peur l'éducation, que le prof, etc.
Non.
Beaucoup par classe, et même pour nous, notre avenir après. Tout ça, ça nous fait peur derrière.
Il ne faut pas vivre avec la peur.
Et pour prouver qu'il a bien entendu le message, demain en Conseil des ministres à Charleville-Mézières, le chef de l'État rappellera qu'il est aussi le président de la ruralité.
À Verdun pour RTL, Vincent Derosier. Dans cette séquence, à mi-chemin, donc entre histoire et actualité, on a appris que le président était menacé.
6 personnes ont été interpellées aujourd'hui dans toute la France. 5 hommes et une femme en lien avec les milieux de l'ultra-droite et qui projetaient une attaque contre Emmanuel Macron. Ces suspects étaient suivis par les services de renseignement, Jean-Alphonse Richard.
Exact. Au moins 3 de ces personnes faisaient l'objet d'une surveillance attentive depuis plusieurs semaines. Parmi elles, un homme qui, dans ce groupe assez disparate, fait aujourd'hui figure de meneur potentiel, de chef. Chez lui, les policiers ont mis la main sur un pistolet de calibre 44 ainsi que sur des dispositifs de mise à feu pour des grenades. Rien ne dit que ce matériel allait être utilisé pour une quelconque action violente. Ces 6 personnes, âgées de 22 à 62 ans, habitant une en Isère, une autre en Ille-et-Vilaine, les 4 dernières en Moselle, partagent les mêmes idées de l'ultra-droite. L'un de ces individus est même présenté comme un admirateur du Troisième Reich. Tout ce monde était en contact via des messagerie sur Internet, des discussions qui ont fait apparaître un projet pour s'attaquer directement à Emmanuel Macron avec un mode opératoire encore très flou, mal défini. La détermination croissante du groupe a toutefois conduit les enquêteurs à agir. Ces 5 hommes et cette femme sont actuellement en garde à vue à la DGSI, les services de renseignement, et toutes les questions portent ce soir sur les détails de l'action qui visait précisément le président de la République.
Jean-Alphonse Richard, chef du service police-justice de RTL.
RTL soir, 18h07.
Une pause et dans un instant, le fameux carnet de santé numérique. Sur les rails.
RTL Soir. 18h09, la suite de RTL Soir avec Marc-Olivier Fogiel et la suite du journal d'Isabelle Choquet.
On en parlait depuis près de 15 ans, le carnet de santé numérique devrait enfin devenir la norme.
On l'appelle DMP pour dossier médical partagé car on le partage avec son médecin. Il suffit de le créer en ligne sur le site dmp.fr et l'on retrouve d'un clic son historique de soins sur 2 ans, ses antécédents médicaux ou ses résultats d'examen. Alors ce n'est pas obligatoire mais c'est gratuit, confidentiel et sécurisé, promet la Sécu. Les médecins sont plutôt partagés. Le docteur Jean-Michel Lemaître, généraliste à Amboise, lui, est franchement emballé.
C'est très utile pour le patient. Je ne connais pas un patient qui se présente pour la première fois devant moi. Je lui demande l'autorisation de lire son dossier médical partagé. J'aurai accès immédiatement à son historique des remboursements. En 30 secondes, c'est tout à fait ça. Et donc, je connais les antécédents, les problèmes chroniques en cours et le traitement de fond, les allergies de ce patient.
Et à l'inverse, Jean-Paul Hamon, le président des médecins de France, est plus que sceptique et il a une interprétation toute personnelle du DMP.
C'est le dossier mal parti, effectivement, parce que faut être vraiment déconnecté de la réalité pour penser que ça se fait tout seul. Mettre les allergies, les intolérances, le traitement, les antécédents, les vaccinations, tout ça, il faut mettre ça à jour régulièrement, le mettre à jour et le mettre à disposition sur le dossier médical personnel. Donc tout ça demande du temps et on n'a pas envie de passer davantage de temps informatique. On n'arrête pas de nous bassiner en disant qu'il faut qu'on regagne du temps médical. C'est pas pour rajouter du temps informatique. Donc on n'est pas rassuré effectivement par le déploiement de ce truc.
Réaction recueillie par Anaïs Buissot pour RTL.
Il est 18h10 et ça fait plus de 2 heures maintenant que nous, les femmes, nous travaillons gratuitement compte tenu des écarts de salaire avec vous, les hommes, depuis 15h35 exactement.
Une revendication peut-être,
Isabelle ? Je suis restée parce que je vous aime bien, Marc-Olivier.
Allez, direction maintenant les États-Unis où l'on vote depuis 6h maintenant pour les élections de mi-mandat, Isabelle.
38 millions d'Américains ont déjà voté de façon anticipée, mais aujourd'hui c'est le D-Day, élection cruciale 2 ans après l'élection de Donald Trump. Philippe Corbet, vous êtes le correspondant d'RTL à New York. Dans les bureaux de vote, en fait, tout tourne autour du président.
Oui, particulièrement ici, dans sa ville où il a bâti sa célébrité, mais qui n'a pas voté pour lui en 2016. Pour Maggie, ce n'est pas seulement un référendum sur Trump, mais aussi sur les valeurs de l'Amérique qu'il menace, selon elle.
Je pense que c'est un vote pour protéger les droits civiques, non seulement en Amérique, mais c'est une responsabilité mondiale. Chaque jour a été une crise d'urgence. Des choses inimaginables à cause de l'idéologie du président Trump. Il s'agit d'être une Amérique meilleure.
Terry, au contraire, est venu voter pour encourager le président.
Il a l'arme à la hanche et tire. Peut-être il devrait retenir certains de ses tweets, mais ce qu'il a fait pour l'instant est génial. Ce n'est pas un politicien de carrière, c'est un boxeur qui rend les coups si vous l'attaquez. C'est pas une fiotte, il va riposter et j'aime ça chez lui.
Selon un sondage, 72% des Américains disent qu'ils vont voter en fonction de Trump, 34% pour le soutenir, 38% pour s'y opposer.
À New York pour RTL, Philippe Corbet. Le foot, soirée à haut risque pour le PSG à Naples.
Après 3 matchs en Ligue des Champions, les Parisiens sont au pied du mur, ou plutôt au pied du Vésuve. Un échec ce soir les condamnerait quasiment à une élimination humiliante. Philippe Sanfourche, vous allez suivre cette rencontre à Naples pour RTL. 2000 supporters parisiens ont fait le déplacement et ils espèrent enfin un déclic européen.
Oui, et ils ne sont pas peu fiers hein, déjà d'être venus en plus grand nombre que les 1200 fans de Liverpool ici même il y a un mois, dans ce vétuste mais légendaire stade de San Paolo, là où Diego Maradona a construit sa légende.
Ah, c'est superbe, c'est magnifique, c'est vraiment une expérience qui sera inoubliable pour moi.
Alors surtout si Paris s'en sort, Julien sera dans le parkage des ultras parisiens tout à l'heure. Il ne cache pas qu'il a un peu la pression.
Oui, très grosse tension, ça va quand même être assez déterminant je pense ce soir.
Le talent des Neymar, Mbappé ou Di Maria, Enrique n'en doute pas un instant. C'est surtout de la grinta qu'il veut voir sur le terrain à l'échelle européenne.
Il faut vraiment cet esprit de groupe. On espère que ce soir, on va avoir un vrai esprit d'équipe qui peut naître à tout moment parce qu'on a toutes les qualités.
Paris attend son match référence dans la fournaise napolitaine, un des berceaux de la mouvance ultra.
A tout à l'heure, Philippe Sanfourche, le coup d'envoi, c'est à 21h, soir de Ligue des Champions sur RTL, 20h45, 23h.
Et avant ça, on suivra Monaco-Bruges à 18h55. La série noire continue sur la route du Rhum. Le maxi trimaran d'Armel Lecléache a chaviré cet après-midi au large des Açores. Il faut dire qu'il y avait des creux de 5 mètres. Le skipper, heureusement, est en sécurité dans son bateau.
On va terminer avec cette surprenante initiative européenne des robots douaniers pour repérer les menteurs.
Ah oui, malgré tout leur flair, les humains sont moins bons que les machines pour détecter les carabistouilles, comme dirait Emmanuel Macron. Alors l'Union européenne a décidé de tester l'intelligence artificielle sur 4 postes frontières en Lettonie, en Grèce et en Hongrie. Concrètement, comment ça va se passer, Sophie Jousselin ?
Eh bien, le garde-frontière sera représenté par un avatar. Le voyageur sera, lui, devant une webcam et devra répondre aux questions de cet agent de contrôle nouvelle génération et détecteur de mensonges. Qu'avez-vous dans vos valises ? Si je les ouvre, est-ce que je trouverai bien ça ? En êtes-vous sûr ? Demandera-t-il. La caméra scrutera alors les réactions et observera une quarantaine de micro-signes produits inconsciemment par le visage de l'homme ou de la femme, des micro-mouvements qui permettront à l'intelligence artificielle de détecter s'il bluffe ou pas. Alors à l'issue de l'examen, un QR code sera délivré au voyageur. Il le passera devant un lecteur. Si le garde-frontière virtuel a estimé qu'il ne mentait pas, il pourra alors entrer dans le pays. Au contraire, s'il a considéré que la personne présentait un score de risque trop élevé, elle sera orientée vers un véritable responsable de la sécurité en chair et en os. Alors pour l'instant, sur une trentaine de cas témoins, le taux de réussite atteint 74%, on vise 85%. Le but pour l'Union européenne, c'est grâce à cette intelligence artificielle de repérer plus rapidement les clandestins parmi les 700 millions de personnes qui franchissent les frontières de l'Europe chaque année.
Merci Sophie Jousselin et à tout à l'heure Isabelle, 18h30.